France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. Et ce matin avec Cerveau et Psycho, comment s'organiser pour ne pas remettre au lendemain, différer sa déclaration d'impôt, repousser sa séance de sport, son rendez-vous chez le médecin. Alors comment mieux s'organiser pour ne pas procrastiner comme 85% des Français et 92% des 18-24 ans. Nous essaierons d'abord de comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau des procrastinateurs et puis nous partagerons des conseils pour gagner du temps, pour pouvoir buller l'esprit tranquille et procrastiner à nouveau. Et vous, comment faites-vous pour lutter contre votre tendance à remettre au lendemain? Quels sont vos conseils pour gagner du temps et profiter du temps libéré? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France où vous pouvez laisser messages et notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebéi.
Bref, lui, c'est demain. Tous les trucs que j'ai à faire, je les remets à demain. Depuis 2 ans, je dois résilier l'abonnement internet de mon ancien appartement, je le remets à demain. J'ai 284 emails non lus, un jour j'ai décidé de les trier, j'ai répondu à 4 emails et j'en ai mis 280 dans un dossier à répondre. Ça fait 3 mois que je pisse dans le noir parce que j'ai pas changé d'ampoule. Quand je veux me désabonner d'un truc, s'il y a plus de 2 étapes,
appuyez sur 3.
Je reste abonné. J'ai commencé 12 livres, j'en ai fini aucun. J'ai le droit aux allocations, j'ai mis mon nom, mon prénom, après il fallait mettre ses revenus de l'année dernière. J'ai pas d'allocation. J'ai acheté un cadre pour mettre une photo de mes parents dedans, je l'ai jamais fait, ça fait 6 mois que j'ai la photo d'une petite fille que je connais pas sur ma table de nuit, je l'ai appelée Alice, et lui, c'est Rookie. Bref, je remets tout à demain.
Moi c'est demain. Quand ce type me donne un truc, moi, je le donne à jamais.
Bref, de Kian Kojandi sur Disney+. Bonjour Sébastien Boller.
Oui, bonjour Ali.
Vous êtes polytechnicien, docteur en neurosciences, vous êtes rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Nouvelle formule avec à la une cette question, êtes-vous procrastinateur? Bonjour Grégoire Borst.
Bonjour.
Professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation, directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant au CNRS. Et vous signez un papier dans ce numéro de Cerveau et Psycho, Grégoire Borst, pour écrire ce papier. Avez-vous procrastiné? Il semblerait que vous ayez rédigé ce brillant article à la dernière minute.
Oui, comme d'habitude. C'est-à-dire que je pense que je suis un procrastinateur chronique. Mais j'essaye... c'était intéressant justement de se plonger dans les rouages de mon cerveau et de savoir effectivement qu'est-ce qui expliquait que je m'y mettais toujours à la dernière minute.
Et vous allez nous expliquer ce qu'il se passe dans notre cerveau quand nous procrastinons. Avec nous, Fabien Olicard, on est ravis de le recevoir à nouveau dans cette émission. Bonjour.
Bonjour.
Mentaliste, entrepreneur, créatif et auteur chez First, de ce livre vous fera gagner du temps avec cette question qui irrigue ce livre, êtes-vous réellement en manque de temps ou victime d'une illusion? Alors je rappelle que vous avez rempli une trentaine de zéniths partout en France en 2 mois avec votre spectacle Archétype. Alors quand on remet au lendemain, c'est une assez mauvaise stratégie, vous l'expliquez dans votre livre, quand on pense gagner du temps. Hein.
Oui, bah oui, ça semble évident, mais dès qu'on remet les choses au lendemain, il n'y a plus problématique que de repousser le moment. Il y a aussi tout ce qu'on va ressentir, c'est-à-dire on a moins d'estime de soi, on a une charge mentale très élevée, on a un gros taux de cortisol dans le sang parce qu'on est en stress. Enfin, il y a plein d'implications qui nous donnent un sentiment de courir après les minutes, qui est encore différent de ne pas avoir assez de temps pour faire quelque chose.
Mais j'ai du mal à croire que vous êtes procrastinateur, Fabien Olicard, avec vos multiples activités, on a du mal à l'imaginer.
Mais parce que justement, j'étais très inquiet, moi, dans ma vie, de me dire je vais pas pouvoir expérimenter tout ce que j'ai à faire, etc. Parce que je repousse très facilement tout au lendemain. Et le jour où j'ai compris et admis que c'était mon logiciel interne, que je pourrais pas le changer, je me suis dit d'accord, donc il faut pas que je cherche à ne plus être procrastinateur, il faut que je sois un peu abstinent. Donc que j'ai une manière de faire qui soit assez douce pour lutter contre les effets de ça, et non pas lutter contre ça directement.
Alors dans le Robert, procrastiner signifie avoir tendance à remettre au lendemain. C'est un comportement que nous connaissons tous, hein, Grégoire Borst, hein, et c'est souvent teinté d'un jugement moral assez culpabilisateur.
Oui, complètement, parce que c'est souvent, je dirais, la conséquence directe, c'est que parfois on n'arrivera pas à produire ce qu'on devait produire en temps et en heure. La deuxième chose, c'est que généralement, on produit quand même des choses de moindre qualité, et ça, c'est un biais très fort des procrastinateurs, c'est qu'ils pensent un peu, c'est d'ailleurs un peu le lieu commun, c'est oui, mais moi, je fonctionne bien que quand je suis en situation de pression temporelle, et c'est à ce moment-là où je fournis finalement le plus gros effort, et que je produis ce qui est le texte de plus grande qualité si j'écris, par exemple. En fait, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte, pour ceux d'entre nous qui avons l'habitude d'écrire, plus on a de temps pour reprendre un texte, plus, in fine, le texte sera bon. Donc c'est un peu un biais aussi, une perception comme ça, et on voit bien que la société nous renvoie quand même le fait que c'est négatif d'être procrastinateur, parce que c'est finalement aussi prendre le temps, prendre du temps pour soi, parce qu'en règle générale, quand on ne fait pas ce qu'on doit faire, on va qu'à d'autres types d'occupations plus plaisante.
Du point de vue de la recherche en psychologie, qu'est-ce que la procrastination ?
La procrastination, c'est la tendance finalement à remettre à demain quelque chose qu'on pourrait faire aujourd'hui. On a un certain nombre de questionnaires, c'est souvent très auto-évaluatif. Hein. On demande aux gens, est-ce que vous avez tendance à vous engager tout de suite dans quelque chose que vous devez faire, ou est-ce que vous préférez finalement différer cette activité un peu plus tard dans le temps ? Et c'est très relié finalement à des choses qu'on étudie depuis très longtemps en psychologie, qui est notamment notre capacité d'autorégulation, puisque c'est ça dont on parle dans la procrastination, et c'est ce que vous disiez aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on est ou pas procrastinateur, ça, il y a une part d'ailleurs génétique dans ce type de comportement, et puis il y a tout ce qu'on peut mettre en place de façon externe pour gérer cette tendance qu'on peut avoir spontanée à différer à demain. Et donc l'autorégulation, c'est notre capacité finalement à différer son plaisir immédiat, et là on est bien dans cette question de la procrastination, pour obtenir quelque chose de plus important dans le futur, c'est-à-dire produire un bon texte, un bon spectacle, remplir ses impôts en temps et en heure.
Et c'est le moment, c'est le moment en plus. Sébastien Boller, on y reviendra largement dans cette émission, mais pourquoi procrastiner de façon chronique et délétère pour notre bien-être, en amplifiant assez souvent des symptômes anxieux et dépressifs ? La procrastination, ça affecte notre bien-être, mais également nos apprentissages. Hein.
Oui, il y a un sondage qui était réalisé il y a quelques années qui montrait que pour 30% des gens, c'était au moins source de difficultés et de tensions, y compris dans leur vie quotidienne, dans leur couple, dans leur relation à autrui. Il y a effectivement ce lien avec la dégradation des émotions. On a voulu interviewer une personne qui est spécialiste justement du lien entre la gestion émotionnelle et la procrastination, qui est professeur de psychologie sociale à l'université de Durham en Angleterre, et qui pointe vraiment le lien entre les émotions négatives et la procrastination dans les deux sens. C'est-à-dire que d'une part, ce qui semble vraiment ressortir des études, quand on interroge les gens sur ce qu'ils ressentent en procrastinant, souvent, c'est l'idée d'une part, ils cherchent à éviter des émotions négatives qui sont liées évidemment aux tâches qu'il faut réaliser, et que c'est donc un problème d'accepter les émotions négatives qui vont en ressortir, de les gérer, et que ça fait appel à toute la thématique de la régulation émotionnelle. Donc il y a des techniques pour ça, et puis il y a le fait évidemment que plus on procrastine, plus l'estime de soi baisse. On s'aperçoit dans les questionnaires que les individus disent se trouver nuls, incapables, et également abattus, vous voyez, découragés, déprimés par le fait de ne pas y arriver. Donc tout ça crée vraiment un lien entre la procrastination et les émotions dans les deux sens. Le sens de la régulation émotionnelle pour arriver à ne pas procrastiner, et puis dans l'autre sens, le fait que nos émotions se dégradent, notre estime de soi se dégrade, l'opinion qu'on a de soi-même aussi s'érode comme ça au fil du temps quand on procrastine, et quand on juge sévèrement aussi sa procrastination, parce qu'il y a cette dimension-là qui est importante, c'est le fait qu'il faut arriver quelque part à être clément avec soi-même, donc ça introduit la notion aussi d'autocompassion. Il y a des techniques qui reposent là-dessus pour moins souffrir des retentissements émotionnels négatifs liés à ces comportements très répandus, en fait.
Grégoire Borst.
Oui, et puis on sait bien qu'il y a aussi ce qu'on va éroder, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à remettre systématiquement à demain ce que vous pourriez faire aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation de pression temporelle. Encore une fois, ce que vous produisez est de moindre qualité, et donc ça donne l'impression que vous ne pouvez pas y arriver. Et donc il y a beaucoup de gens, et ça crée un cercle, je dirais, une spirale négative. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pensez que vous n'allez pas y arriver, ça vous donne encore moins envie de vous lancer dans cette activité qui, encore une fois, et une activité qui vous coûte parce que vous surestimez l'effort que vous avez à faire maintenant pour faire cette activité et vous sous-estimez l'effort que ça pourrait vous prendre 10 ou 20 jours après.
Ça vous parle, Fabien Olicard?
Ah oui, non, mais complètement, en fait. Moi, je bois les paroles de Grégoire comme du petit lait parce qu'il y a tout à fait ça. Et puis, ça résonne dans mon expérience personnelle, ça je le retranscris dans le livre, avec le fait de confondre aussi la gestion de mon temps avec la gestion de mon énergie. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette procrastination-là. J'ai calé tout dans mon agenda et ça rentre bien comme des petites briques de Lego. Et j'ai sous-estimé l'énergie que ça me prenait de réaliser la tâche, surtout quand elle donne des sentiments négatifs. Quand l'énergie à déployer pour persévérer, me motiver est énorme. Ce qui fait qu'après, ben, en fait, j'ai plus de jus pour le reste de la journée. Donc je procrastine ces trucs. Mais le lendemain, au lieu de me dire, ben oui, mais j'en avais trop prévu, je me dis, j'ai encore procrastiné, je suis nul.
Et vous débutez votre livre, Fabien Olicard, en expliquant que vous avez toujours eu du mal à accomplir quoi que ce soit sans y être contraint. Mmh. Vous êtes procrastinateur depuis votre plus tendre enfance. Vous êtes souvent très occupé, mais pas pour les bonnes choses. Parce que le paradoxe du procrastinateur, c'est de mettre énormément d'énergie dans quelque chose de non urgent pour repousser ce qui l'est vraiment.
Ah mais il faut absolument nettoyer la table de la cuisine alors qu'on est très en retard pour ce rendez-vous très important et que la table elle est sale depuis 10 jours. Mais c'est le moment de la nettoyer, c'est là que c'est important. Et en fait, on confond à partir de ce moment-là ce qui est urgent et pas important, ou pas urgent et pas important, avec ce qui est urgent et important. C'est la fameuse matrice d'Eisenhower, le 42e président américain qui avait un peu dispatché ça, mais on y reviendra tout à l'heure.
Et bizarrement, vous rappelez dans votre livre qu'il est illusoire de penser que l'on peut gérer son temps.
Oui, en fait, on gère pas vraiment son temps, en fait, on gère son énergie, on gère ses priorités, on gère ce qu'on a envie de faire, pas envie de faire, son alignement personnel, sa compréhension globale, mais la gestion du temps en tant que telle, elle dépend pas de nous, parce qu'on n'a pas une bonne perception, en fait, finalement, de tout ça, et puis il y a aussi des syndromes extérieurs, et puis là, je parle avec vous, et ces 2 heures vont passer en 10 minutes, donc je gère pas vraiment... Alors, en fait, bon, vous n'avez pas bien informé, je pense. Moi, je reste un peu plus longtemps.
C'est Nagui qui va être content.
En fait, c'est que je ne viens pas pour 1 heure, en fait. C'est ça que je ne vous ai pas expliqué, Ali. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que toutes ces perceptions-là font qu'en fait, on ne gère pas tellement notre temps. On gère, comme parlait Grégoire tout à l'heure, notre satisfaction d'avoir fait des choses.
Ouais, et puis, pour revenir sur la question du temps et de la perception du temps, il y a quelque chose qui est très ancré dans le cerveau humain, c'est on a tous des biais, notamment des biais de planification. Mmh. C'est-à-dire qu'on va tous et toutes sous-estimer le temps que va nous prendre une tâche, d'autant plus si c'est une tâche qui nous demande beaucoup d'efforts nous intéresse peu. Et donc, je pense qu'une bonne... un bon conseil qu'on peut déjà donner aux gens, c'est vous estimez le temps pour une tâche donnée et vous doublez ce temps et a priori, vous ne serez pas trop loin.
C'est vrai, surtout si vous n'aimez pas.
Surtout si vous n'aimez pas, a priori, vous ne serez pas trop loin du temps que ça va vous prendre. Donc, notamment pour les impôts, si vous pensez que ça va vous prendre 3 semaines, bon, vous êtes dedans.
Bonjour docteur Adrien Chaboch.
Bonjour Ali.
Quel procrastinateur êtes-vous?
Écoutez, moi j'ai beaucoup travaillé sur ça pour parvenir à gérer un peu, j'ai développé plein de techniques pour y parvenir. Par contre, du coup, pour la chronique, je ne l'ai pas faite, parce que je l'ai remise à tout.
On aura demain.
Le menu de votre chronique, quoi de neuf docteur?
J'ai réfléchi à la procrastination et je me suis dit, je vais vous emmener à réfléchir sur la bonne rêverie. La rêverie qui va nous permettre de sortir de la procrastination.
Grand bien vous fasse.
Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain.
C'est-à-dire qu'en fait, elle devrait être pour aujourd'hui d'ailleurs. Si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Qu'elle est toujours pour demain. Alors, je vous pose la question, mesdames et messieurs, est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons?
Sur France Inter. Et ce matin, comment mieux s'organiser pour ne pas remettre au lendemain? Une émission avec la complicité de Cerveau et Psycho et de son rédacteur en chef Sébastien Boller et Patrick qui nous demande pourquoi lutter contre depuis que je l'ai accepté. Je vis parfaitement ma procrastination. Il suffit, entre guillemets, de s'organiser en fonction de cela et on s'en sort bien. Fabien Olicard, auteur de ce livre, vous fera gagner du temps chez First. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette réflexion de Patrick?
Que Patrick a complètement raison, mais d'ailleurs Patrick donne la réponse dans sa question puisqu'il dit je me suis organisé autour, donc en fait il a quand même organisé sa procrastination. Et effectivement là où Patrick met le doigt sur quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que on parle de procrastiner parce que le problème c'est la frustration que ça génère et non pas, le problème n'est pas forcément il faut absolument gérer mon temps pour être plus productif dans la vie. On veut gérer son temps pour faire des choses qui nous font plaisir, qui nous alignent. Et je suis sûr que c'est ce que dit Patrick quand il dit je me suis organisé pour avoir du temps qui me fait plaisir.
Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement.
Oui, et ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qu'on observe dans les études. La première, c'est que les gens qui sont les mieux organisés souffrent moins de procrastination. Donc, je dirais que dans l'autre sens, si on est procrastinateur, il faut réussir à s'organiser. Puis la deuxième chose qu'on observe souvent, c'est finalement un envahissement de l'affaire professionnelle dans la sphère personnelle et dans la sphère des loisirs. Et c'est ça la problématique, en fait, avec la procrastination. Donc finalement, si quelqu'un réussit à s'organiser pour maintenir les aspects reliés à notre vie personnelle qui sont liés au plaisir, je dirais qu'il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Ce qui nous intéresse, c'est en fait quand la procrastination devient une souffrance, d'une certaine manière, parce qu'il y a un manque d'organisation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.
Grégoire Borst, dans Cerveau et Psycho, vous expliquez que procrastiner, c'est refuser de s'engager dans une activité qui demande un effort pour lui préférer des tâches qui procurent une satisfaction immédiate. Pourquoi ne parvient-on pas à se maîtriser ? Et une expérience menée en 1970 par le psychologue américain Walter Michel de l'université Stanford peut nous aider à comprendre ce qu'il se passe.
Mais finalement, dans son expérience, ce qu'il essayait de mettre en évidence, c'est que dès l'enfance, il y a un mécanisme qui est extrêmement important pour être adapté finalement, mais pour aussi se fixer des objectifs sur le long terme, c'est notre capacité à autoréguler notre impulsivité. Alors, il le mesurait comment ? Il le mesurait de façon assez drôle. Le principe est le suivant, un enfant arrive dans une pièce, un expérimentateur l'attend, et à ce moment-là, il lui propose un petit marché, il lui dit, tiens, je te donne un marshmallow, ou n'importe quel type de friandise, tu peux la manger maintenant, mais si tu attends, quand je reviens, je t'en donne un deuxième. Moi, il sort de la pièce, évidemment l'enfant ne sait pas combien de temps va durer la tâche, c'est extrêmement complexe parce que ça dure 15 minutes et on fait ça avec un enfant de 3 ans. Et l'intérêt de cette expérience, d'une part, c'est qu'elle est filmée, donc on voit tous les comportements de l'enfant qui essaye de s'auto-réguler face à cette friandise et à ce plaisir immédiat, donc cette libération de dopamine qu'il pourrait y avoir dans son cerveau pour évidemment avoir beaucoup plus ensuite. C'est-à-dire que c'est tout l'enjeu en fait de s'auto-réguler, c'est qu'on obtient quelque chose de plus satisfaisant dans le futur. Et ce qui montrait, c'est qu'en fait à 3 ans, il y a déjà 2/3 des enfants qui attendent. Alors, il y en a qu'un tiers qui va au bout des 15 minutes. Il y a un effet évidemment développemental. À 11 ans, il y a beaucoup plus d'enfants qui sont capables de se maîtriser. Que c'est une compétence qui se développe pendant toute la période aussi de l'adolescence. On sait qu'à l'adolescence, c'est même une compétence un peu assez complexe. Quand on est adolescent, on a tendance à être encore, on se refocalise sur le plaisir immédiat. C'est d'ailleurs une des spécificités de l'adolescence. Mais aussi que c'est très prédictif, ça c'était une autre chercheuse, Terry Moffitt, qui avait montré ça dans une cohorte longitudinale en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire qu'on avait suivi des enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes, et il montrait que c'était une des compétences les plus prédictives de votre santé physique, de votre santé mentale, de votre bien-être et de votre épanouissement personnel et professionnel. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, c'est ce qui nous permet finalement de se fixer des objectifs extrêmement ambitieux. C'est-à-dire que c'est différer un peu son plaisir immédiat, mais pour avoir quelque chose de plus important dans le futur.
Et expliquez-nous plus précisément le lien entre cette célèbre expérience de Walter Michel avec la procrastination.
Mais parce que la procrastination, c'est un défaut de gestion de son impulsivité. C'est-à-dire que quand on est procrastinateur, c'est exactement ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est la personne qui tout d'un coup va se dire « Ah ben non, mais ça, c'est, il faut que je le fasse maintenant parce que c'est beaucoup plus important » ou alors « Il y a un plaisir associé immédiat à l'activité dans laquelle je vais m'engager. » Et donc, tout l'enjeu de contrer la procrastination, c'est précisément d'arriver à se remettre dans la peau d'un enfant qui essaierait de résister à son marshmallow en se disant « Mais qu'est-ce que j'ai à gagner si je m'engage maintenant dans cette activité ?» Et vous le disiez très bien tout à l'heure, la première chose, c'est diminuer sa charge mentale, maximiser aussi son estime de soi et son sentiment d'efficacité personnelle.
Fabien Olicard.
Moi, ça me rappelle des personnages illustres comme Victor Hugo, par exemple. Victor Hugo, qui était un gros fêtard, qui passait beaucoup de temps à faire la fête et à récupérer de la fête, il n'arrivait pas à écrire Notre-Dame de Paris, qui avait été commandée et prépayée, parce qu'il préférait sortir. Et à la fin, quand il a été acculé d'un début de procès, il a donné tous ses vêtements à ses employés de maison en disant « Vous me les rendez que si j'arrive à vous présenter un chapitre ». Donc, sachez-le, Notre-Dame de Paris a été écrit avec un Victor Hugo tout nu quand il écrit. Mais pour vous dire à quel point effectivement, c'était pour aller vers cette notion de plaisir. Et moi, je le vois quand je procrastine, c'est pas forcément pour rien faire, c'est parce que j'ai des nouvelles idées donc, qui génèrent de la dopamine dans mon cerveau et qui m'attirent plus que la persévérance de l'idée d'hier.
Et j'ai l'image mentale de Victor Hugo nu. Merci
ah ben oui,
beaucoup,
avec plaisir. J'en ai d'autres sur Léonard de Vinci, on verra ça plus tard.
Sébastien Boller.
Oui, j'ai beaucoup aimé la présentation qu'a faite Grégoire Borst de l'expérience du marshmallow. Et je voulais juste compléter parce que Grégoire nous explique dans le même article le lien avec la procrastination, votre question Ali, c'est le fait que effectivement il se produit l'inverse du marshmallow pour les tâches désagréables. C'est-à-dire que si on vous donne quelque chose d'agréable, vous préférez l'avoir tout de suite, vous avez du mal à résister. Mais si on vous donne une tâche désagréable à faire maintenant, vous préférez la différer à demain. Et il y a des expériences qui ont été faites, notamment à l'Institut du cerveau, on donnait le choix à des gens entre faire une tâche un peu pénible comme mémoriser une liste de 10 lettres, par exemple, tout de suite, ou mémoriser 20 lettres quelques jours plus tard. Donc là encore, il y a un choix entre faire quelque chose de désagréable tout de suite ou faire quelque chose d'encore plus désagréable plus tard. Et on se rend compte que les gens préfèrent faire des choses plus désagréables plus tard que des choses moyennement désagréables tout de suite. Et ça donne les mêmes effets d'atténuation des émotions avec le temps, si bien que cette espèce d'illusion temporelle que les choses seront moins désagréables plus tard. Et ça, c'est vraiment un effet psychologique, un biais très très puissant et assez mystérieux. Pourquoi on va se dire que la même chose sera moins pénible si on la fait dans 2 ou 3 jours. Et ça tient de nouveau au même circuit de régulation des émotions qu'évaluait Grégoire Borst. Et en tout cas, ce qui était fascinant dans cette étude de l'Institut du cerveau, on se rendait compte que les gens qui procrastinaient, c'était des gens qui avaient tendance à diminuer encore plus la pénibilité d'une tâche dans le futur qu'il ne diminuait le caractère agréable d'une récompense avec le temps.
Grégoire Borst, prenant un exemple concret, hors antenne tout à l'heure, Nicolas Demorand nous disait qu'il avait préféré différer le renouvellement de papier d'identité qu'il pouvait faire mercredi à dans un mois et demi, fin juin, et qu'il se sentait soulagé. Ce sont ses termes.
Ouais, parce que le soulagement vient directement du fait qu'il surestime en fait le poids et l'effort à fournir, parce que l'effort est à fournir tout de suite. Et c'est ce que disait très bien Sébastien. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant dans les études, c'est qu'on voit un double effet. C'est-à-dire les gens surestiment l'effort à fournir pour une tâche à réaliser immédiatement. Ils le sous-estiment sur une tâche qu'ils vont repousser à un mois et demi. Donc c'est exactement ce qui s'est passé dans le cerveau de Nicolas Demorand. Et en sous-estimant effectivement aussi le bénéfice associé à mettre cette tâche de côté parce qu'on a fini par obtenir ces papiers. Donc il y a une espèce de défait comme ça, et puis en plus il y aura des conséquences probablement et des effets secondaires au fait d'avoir repoussé d'un mois et demi ces papiers. Enfin, j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais...
Fabien Olicard.
Alors moi j'ai une astuce pour ce genre de choses que j'ai dû mettre en place dans ma vie. Toutes les tâches un peu complexes qui m'encombrent et qui m'angoissent d'une manière irrationnelle, ce qui est exactement le cas de cet exemple, je cherche les temps différents de ces choses-là. Je vous donne un exemple pour la compta. J'ai horreur de faire la comptabilité, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. J'ai trouvé comment faire. Il y a 2 temps très définis. Celui où je cherche mes factures et mes justificatifs et où je les scanne, et celui où je les pointe et où j'organise ma compta. Donc je ne ferai jamais les 2 en même temps et le même jour. Et il y a cette journée-là où je dois faire ma compta, mais en fait finalement c'est super, je ne la fais pas, je ne fais que chercher des papiers. Et le jour où je dois faire ma compta, je ne peux pas procrastiner en me disant oui, mais je n'ai pas tous mes papiers, donc j'y vais plus facilement.
Docteur Chaboch.
Oui, moi j'ai un comptable du coup.
Le pire, c'est que c'est c'est ça que j'appelle faire ma compta.
Je me souviens de mon père qui me disait un feignant convaincu, c'est quelqu'un de très bien organisé parce Exactement. Qu'il gagne du temps. Exactement. Et effectivement, moi, mon astuce, j'ai beaucoup travaillé sur mon corps, et ça a été de me mettre dans une position corporelle confortable pour me mettre à la tâche. Et je vous assure que ça m'a beaucoup aidé. Et je crois qu'effectivement, dans cette avalanche de tâches qu'on n'arrive pas à prioriser avec nos injonctions et notre impulsion interne, on a du mal aussi à réguler entre ce qui est vital et ce qui ne l'est pas, mais qui est devenu vital, bien qu'artificiel, dans notre société. Et donc c'est un méli-mélo, on n'arrive plus à discerner les bonnes choses, quoi. Donc il y a un travail de décanter un petit peu ça, de se dire qu'est-ce qui est vraiment vital. Alors les impôts, ouais, c'est artificiel, certes, mais c'est quand même vital.
Alors Grégoire Borst, à quoi ressemble le cerveau des procrastinateurs d'un point de vue anatomique? Les zones frontales qui nous aident à réguler nos impulsions sont moins développées chez celles et ceux qui procrastinent?
Oui, il y a un certain nombre d'études qui viennent notamment d'une équipe chinoise qui montre que on a des modifications de l'anatomie du cerveau en lien avec cette tendance à procrastiner. Donc, un certain nombre de régions dont on a déjà parlé qui sont impliquées dans la régulation émotionnelle. On pense au cortex préfrontal, ventromédian, orbitofrontal. Tout ça, c'est des zones qui sont extrêmement importantes dans la régulation émotionnelle, mais aussi dans l'intégration justement de ces rapports entre immédiat et différé, que ce soit en termes de coût ou de plaisir associé. On sait aussi que la connexion entre les régions du système limbique, c'est-à-dire celles qui sont réellement qui vont jouer dans notre sensation du plaisir, dans la libération de dopamine et ainsi de suite, et le cortex préfrontal qui régule l'activité de ce système limbique, sont aussi altérés chez ces procrastinateurs. Et puis la dernière chose, c'est justement on le sait tous, quand on est en situation d'inactivité, on a un système de rêverie qui se met en place dans notre cerveau. C'est ce qu'on appelle le mode de pensée par défaut dans le cerveau humain. Et ce qui est intéressant, c'est que chez les procrastinateurs, il fonctionne un peu différemment. Il est moins régulé par nos systèmes, justement, préfrontaux, qui permettent de réguler un peu notre rêverie permanente. Alors, la rêverie, c'est très bien, mais dans des moments où il va falloir s'engager dans une activité, parce qu'il faut vraiment, la deadline approche, à ce moment-là, il faut réguler l'activité de ce système, ce mode de fonctionnement par défaut.
Ça va pas très bien ensemble, rêverie et déclaration d'impôt. Impôts, hein. Voilà. Quand on procrastine, c'est qu'on déteste la tâche à faire, vous nous l'avez dit. Une synthèse de Pierre Steele de l'Université de Calgary, publiée en 2007 dans Psychological Bulletin, montre que notre propension à repousser une activité est liée à l'appétence qu'elle suscite en nous. Bref, plus une action nous déplaît, plus elle nous semble pénible à effectuer et anxiogène, et on ne la fait pas, et c'est un cercle vicieux.
Ben c'est exactement un des exemples qu'on prend dans l'article, c'est les gens qui font les cadeaux de Noël à la dernière minute. C'est en règle générale des gens qui n'ont pas forcément une appétence extrême pour cette fête familiale de la fin de l'année. Et on voit bien que c'est le cas pour plein de choses. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour les impôts. Parce qu'il y a peu de plaisir associé pour faire cette déclaration d'impôt. Oui, à part des gens qui ont développé une espèce de rapport pervers aux actes administratifs. Mais sinon, c'est évidemment extrêmement complexe. Et donc, on voit bien que la question de l'appétence, elle est extrêmement importante. Et puis, il y a une autre chose que montre très bien cette méta-analyse, c'est de dire finalement qu'il faut aussi calibrer, en fait, son rapport à l'effort. On surestime l'effort qu'il faut qu'on engage dans une tâche donnée. Donc, ce qui est pas mal, c'est de se confronter à. C'est-à-dire, voir 10-20 minutes, d'essayer un peu. Justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est bon, si je scanne une partie de mes factures, ça me prend combien de temps et quel effort réel ça m'a demandé? Parce qu'ensuite, la prochaine fois, on pourra se rappeler de l'état émotionnel associé à cette activité et ça nous permettra de nous y engager plus sereinement.
Fabien Olicard?
Oui, bah alors moi pour Noël j'ai encore une autre astuce. Du coup j'ai une note, non mais blague à part, c'est exactement ça. Quand je dis il n'y a pas une méthode définie mais il y a des systèmes, j'ai une note ouverte dans mon téléphone toute l'année où toutes les idées de cadeaux pour quelqu'un je le mets, la chose dont il me parle etc. Et je n'ai plus de problème à faire mes cadeaux de Noël parce que l'un de mes problèmes dans les dissociations de cette tâche c'était d'abord de me dire bon qu'est-ce que je lui achète à lui ou à elle etc. Maintenant que j'ai la réponse, je peux me dire allez Fabien c'est bon t'y vas, t'achètes le truc et tu fais le tour. C'est toujours ça, parce qu'il y a la procrastination aussi quand même des tâches qu'on aime bizarrement. Moi, je procrastine l'écriture de mes livres, l'écriture des spectacles, je procrastine le tournage d'une vidéo, parce qu'encore une fois, quand c'est la nouvelle idée, ça me donne un plaisir.
Mais c'est pas de la maturation, tout simplement, de la maturation créative.
Ben, en tout cas, moi, quand je vous raconte mon prochain livre, là, je vais faire ça dedans, ça va être super, etc. Bon, au moment de m'y mettre, on passe de la motivation à la persévérance, quoi. Il faut que je commence à gravir la montagne. Vous savez ce que c'est écrire un roman, vous écrivez des excellents, et après... Au-delà de l'idée, il va falloir s'y mettre. Et ça demande un petit peu de courage. Et même pour ce qu'on aime, le courage, c'est de faire ces étapes obligatoires qui sont moins plaisantes que l'idée et le résultat. Il y a l'entre-deux, quoi.
Tiens, Grégoire Borst, quels sont les traits de personnalité que l'on retrouve le plus souvent chez les procrastinateurs?
Bon, y a un premier dont on a déjà parlé, c'est évidemment estime de soi, sentiment d'efficacité personnelle. On voit bien que ça, c'est très lié. Il y a tout ce qui est relié au fait d'être consciencieux. Alors, ça paraît un peu comme ça, très jugement moral, mais pas du tout. C'est l'idée de savoir si vous êtes organisé, si vous avez votre capacité à être concentré, puisqu'on sait bien que effectivement un procrastinateur, c'est aussi, ou une tendance à procrastiner, c'est aussi très lié au fait qu'on a plein de stimulations externes. Oui. Typiquement, nos portables sont une source de stimulation quasiment infinie, avec un rapport immédiat au plaisir, donc c'est génial. On va directement sur un réseau social, hop, plein de dopamine qui est libérée, parce qu'on va sur des réseaux sociaux qui nous font, des gens qui nous font des compliments, donc on trouve ça fabuleux, et ainsi de suite. Donc il y a ça, et puis il y a aussi des traits qui sont, on en a aussi parlé, c'est-à-dire plutôt l'aspect, je dirais, plutôt négatif, anxieux, le fait d'être anxieux, ça va être un facteur de risque pour la procrastination et puis d'avoir des symptômes dépressifs. Donc tout ça va participer à, et la difficulté à réguler son impulsivité, on en a déjà parlé.
Sébastien Boller, dans Le Cerveau et Psycho, vous nous aidez à évaluer notre degré de procrastination sur une échelle de 1 jamais à 5. Très souvent, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce test? On va essayer de le faire ensemble. 1, jamais, 5, très souvent.
Oui, bah alors c'est un test effectivement qui vient d'études sur la procrastination des études universitaires. Hein. C'est le psychologue canadien Pierce Steele en 2010, dont on a parlé tout à l'heure, qui a créé la première échelle de procrastination en anglais, qui a été adaptée ensuite par des psychologues comme Marie Rebetez à l'Université de Genève en français. Donc c'est un outil scientifique, hein, c'est pas un test comme ça pour s'amuser, même si en fait c'est très intéressant parce que vous verrez, on a peut-être tous l'impression de savoir à quel point on procrastine ou pas, comme ça l'intuition plus ou moins au doigt mouillé. C'est ce que je pensais aussi, et puis je l'ai fait, je l'ai rempli, et là on en apprend quand même sur soi-même. Donc c'est pas mal effectivement de mettre des chiffres. Donc sur chaque question, il faut répondre de 1 pas du tout à 5 entièrement. On obtient un total qui peut aller de 11 à 55. Alors, il y a par exemple une première question, c'est tout bête, hein, mais c'est vraiment les situations qu'on rencontre. Première question, je reporte les décisions jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Donc est-ce que c'est vrai ou pas ? Voilà, 1 si c'est pas vrai, 5 si c'est totalement vrai, et puis toutes les notes intermédiaires. Ensuite, vous avez des questions comme, même après avoir pris une décision, je repousse le moment où je vais l'appliquer. Donc on a pris la décision, mais bon, on va attendre un peu. Je perds beaucoup de temps avec des futilités avant d'arriver aux décisions finales. Voilà, donc je meuble. Ou à l'approche d'une échéance
là, tout
importante,
monde est à 5,
je
perds pour souvent... le moment. Hein. Vu les rires autour de la table.
À l'approche d'une échéance importante, je perds souvent du temps en faisant d'autres choses.
La table de la cuisine.
Donc c'est parfois un petit peu redondant, mais ça permet de mieux contextualiser. Ou alors, je me rends compte que même les travaux qui n'exigent presque rien d'autre que de s'asseoir et de les faire sont rarement effectués avant plusieurs jours. 1 à 5, toujours. Je me retrouve souvent à effectuer des tâches que j'avais eu l'intention de faire depuis plusieurs jours auparavant. Je me dis sans cesse, je le ferai demain. Bon, ok, ça c'est évident. Je remets généralement à plus tard le début d'un travail que je dois faire. Je me retrouve souvent à manquer de temps, je n'arrive pas à faire les choses à temps, je ne suis pas très bon ou pas très bonne pour respecter les délais. Voilà, donc moi j'ai fait mon petit test.
Et alors
je m'en doutais, mais quand même, moi je suis vraiment dans le je sais pas, hein, c'est pas par fausse modestie, mais je suis assez peu procrastinateur, personnellement. Voilà, j'arrive à
vous, Grégoire
Borst, toutes les choses.
Moi, je suis procrastinateur, mais j'essaie toujours de me dire c'est parce que je fais énormément de choses. Alors, je pense qu'il y a aussi ce rapport-là et cette problématique-là, c'est-à-dire que pour être peu procrastinateur ou pour moins procrastiner, surtout si on a une tendance à l'être, il faut diminuer le nombre d'engagements qu'on accepte. Ah. Et ça, c'est complexe.
Ça, vous l'expliquez dans votre livre, Fabien Olicard, savoir dire non.
Savoir dire non, c'est le problème de l'énergie dont je parlais tout à l'heure. C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, par contre, on n'est pas des surmachines, quoi. Il faut savoir dire non à des rendez-vous ou à des dîners qu'on n'avait pas envie de faire, à des activités qu'on ne pourra pas gérer en plus de ce qu'on fait, à des choses qui ne nous appartiennent pas. Des fois, on dit oui pour faire plaisir à quelqu'un pour un truc parce que ça demande de l'énergie de dire non. Mais en fait, prenez cette énergie pour dire non, elle est beaucoup moins grande que celle qu'il faudra pour assumer le oui.
Et dans un instant, vous allez nous aider à gagner du temps, Fabien Olicard. 10h40, il est prêt, Adrien Chaboch et sa chronique Quoi de neuf, docteur ?
Voilà, ça me le fait, là.
Grand bien vous fasse.
Qu'est-ce que j'ai, docteur ? Je vous en prie, dites-le-moi.
Ali Rebéi.
J'ai pensé à la tuberculose, moi, c'est ridicule.
Quoi de neuf, docteur ?
Sur France Inter.
Et si pour arrêter de procrastiner, il fallait rêver, Adrien Chaboch ?
Eh oui, cher Ali, ce week-end, est-ce que vous avez pu faire rien ?
Honnêtement, oui. Je suis très bon pour ça.
Alors, je voudrais proposer à tous nos auditeurs, si cela leur est possible, bien évidemment, ne lâchez pas le volant si vous conduisez. En revanche, lâchez un peu votre téléphone. Je vous propose de faire rien. Rien d'autre de trop important que de m'écouter. Et encore, ne faites pas trop d'efforts pour cela. Non, juste ma voix, plus ou moins lointaine à vos oreilles. Laissez-les faire leur travail pour vous. Ne faites aucun effort. Je vous donne à tous la possibilité, pendant ces 3 minutes de chronique, de n'avoir rien à devoir, n'avoir ni à réussir, ni à échouer. Une attention légère, presque déconcentrée. Et je vais vous raconter une curieuse histoire. J'ai des patients qui viennent me voir, car ils veulent s'arrêter, mais ils ne savent plus comment. Ni comment me le dire, ils ne savent même plus s'ils viennent voir le médecin que je suis, le thérapeute ou le praticien de l'hypnose. Pris dans le vertige de notre société qui vante tellement la performance à tout va, nous avons perdu l'arbre sous lequel l'ombrage des branches nous faisait un instant oublier le temps, à demi endormi, pour rêver. Et je pense que cela dit en effet quelque chose de notre société. Comment avancer vers ce que l'on s'oblige à faire si avant tout nous ne fixons pas nos limites ? Dans un article du Times du 12 mai dernier, 94% des 25 à 34 ans ont décrit avoir subi des signes physiques de fatigue anormale, comme le brouillard mental, de l'irritabilité ou des douleurs physiques. Comment faire alors lorsque rien faire devient un défaut ? Et si au lieu de toujours vouloir combler le vide, on apprenait à l'habiter ?
Alors qu'est-ce que vous leur proposez, docteur Chaboch ?
Eh bien, de faire rien, mais d'une façon, attention, sérieuse. Pour cela, de nombreuses pratiques existent, sans risque lorsqu'elles sont pratiquées par des professionnels. Par exemple, l'hypnose, la méditation, la cohérence cardiaque, la sophrologie. Il y en a de nombreuses autres. Aucune n'est miraculeuse, toutes se valent. Elles peuvent induire, chacune différemment, un état de conscience bénéfique et accessible à tous.
Mais repose-t-elle ces méthodes sur des preuves scientifiques ?
Alors oui, mais avant tout, ce ne sont que des outils. Elles n'inventent rien qui n'existerait pas déjà dans l'être humain. Mais utilisées avec précision, elles permettent d'accéder à un fonctionnement naturel en étant débarrassées de notre anxiété. Je vous explique. Quand le cerveau n'est pas engagé dans une tâche précise, comme par exemple marcher sans but ou laisser le regard dans le vide, il entre naturellement dans un état neurologique spécifique. Stanislas Dehaene, un grand neuroscientifique, a montré que ce mode par défaut dont on a parlé mobilise activement un réseau spécifique de régions cérébrales qu'on appelle le réseau du soi. Et selon Lionel Nakache, un autre grand neurologue et chercheur, ce vagabondage mental joue un rôle central, indispensable, dans la construction du sens de notre vie. C'est ce qui nous permet d'imaginer, de créer des liens, de nous projeter positivement et naturellement dans l'avenir, de nous reconnecter à notre légende personnelle, comme le disait l'écrivain Paolo Coelho. Mais ça demande ce temps vide qui nous échappe. Même l'attente à un feu rouge aujourd'hui est devenue insupportable. La vraie procrastination, ce n'est pas le manque de motivation, mais l'asphyxie intérieure où les interstices de temps d'ennui d'où naissent les idées sont finalement envahis. Alors, pour vous remettre en action, je vous prescris à tous de donner de la valeur à la rêverie active et délibérée. Chaque jour, 3 minutes, sans but, sans écran. Et sans performance.
Le regard de Grégoire Borst, je rappelle que vous êtes professeur de psychologie du développement.
Oui, ben on l'a bien entendu, c'est effectivement un véritable enjeu, c'est-à-dire de pouvoir s'engager fortement dans ce réseau par défaut, qui va sous-tendre effectivement tout un nombre de processus psychologiques importants, hein, notre capacité d'anticipation, penser le futur, penser aussi soi-même face au monde dans lequel on essaye d'évoluer. Cette notion effectivement de ne pas être en permanence dans une activité et notamment que notre attention soit captée par des sources externes de stimulation. Et puis, je dirais la dernière chose qui revient à ce qu'on disait sur la procrastination, c'est-à-dire diminuer son anxiété. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait bien que le fait d'être très anxieux nous prend beaucoup de ressources cognitives et donc de fatigue. Et cette fatigue, elle est directement liée au fait qu'on ne va pas s'engager dans une tâche qui va nous demander des ressources et des efforts. Et donc, on voit bien là l'enjeu, effectivement, de déconnecter par moment. Et quand je dis déconnecter, ce n'est pas simplement des écrans, c'est en fait déconnecter du réel et se mettre dans cet état, finalement, de vagabondage intellectuel et psychologique.
Sébastien Boller.
Ouais, j'ai beaucoup aimé la chronique de Zaria Chaboch qui nous montre une chose, c'est qu'on est vraiment dans une maladie civilisationnelle. Mmh. Et il y a quelques années, il y a eu cet article dans la revue Science qui avait fait quand même du bruit parce qu'elle montrait à quel point on était arrivé de ne pas supporter en fait ces moments de flottement. C'était une expérience où on proposait aux gens de rester assis simplement devant une table pendant 15 minutes sans rien faire. Ou alors, oui, ils avaient le choix de pouvoir tripoter une sorte de petit boîtier métallique, mais ce boîtier avait une probabilité de leur envoyer des décharges électriques. Et plus des 2/3 des gens préféraient encore s'occuper avec le boîtier, quitte à se prendre des décharges, plutôt que de ne rien faire. C'est-à-dire que la conclusion des auteurs, c'était que justement cette activité de notre cerveau, cette activité endogène, de vagabondage mental qui repose sur le fameux réseau par défaut, est perçue aujourd'hui comme pénible, comme quelque chose, comme une véritable torture. C'est-à-dire qu'on a perdu, le soi lui-même est devenu quelque chose d'hostile et de déplaisant. Et c'est pas étonnant dès lors si on va faire tout ce qu'on peut toute la journée pour s'occuper d'une certaine façon, notamment avec nos écrans qui nous offrent d'innombrables opportunités, de nous occuper de meubler le temps, parce qu'on sait, et puis c'est là aussi des travaux de Marcus Reich qui a découvert l'existence du réseau par défaut, que dès qu'on s'occupe dès qu'on dirige son attention vers une distraction ou qu'on s'occupe avec ses mains vers un stimulus concret, on éteint ce réseau par défaut, on éteint ce vagabondage et on éteint la réflexion sur le soi et sur le sens. Donc on se fuit soi-même et dès lors on rentre dans une addiction parce que dès qu'on est confronté avec soi, on ne le supporte plus. Et évidemment, toutes ces stimulations vont aussi nous permettre de meubler le temps et donc de ne pas le voir passer, de ne pas le structurer et d'être d'autant plus victime de la procrastination. Donc merci Adrien.
Et Sébastien Boller, je renvoie à votre livre disponible en poche, Le bug humain, qui est consacré notamment à cette structure cérébrale, le striatum, impliqué dans le principe de plaisir. Fabien Olicard.
Oui, pour rebondir sur votre excellente chronique, c'est ça, on en fait tous l'expérience de sortir des toilettes ou de sortir de la douche en disant « j'ai une idée, je voulais te dire quelque chose, c'est pas un hasard que ça vienne dans ces moments où on est dans un univers neutre, où on n'a pas de stimulation externe et en fait on se retrouve avec soi-même ». Et j'ai une petite anecdote pour le besoin d'une émission sur la mémoire. J'étais avec François Berléand et je devais l'emmener à l'aider à régler son problème d'endormissement, de sommeil, etc. Et puis François est très vif, et puis il me dit oh, ça fait 20 ans, là tout le monde a des solutions pour moi, les tisanes, les machins, il n'y a rien qui marche, ok. Et on lui a prescrit exactement ce que vous recommandiez, avec une professionnelle qui l'a guidé sur une petite méditation guidée de 7 minutes en plein milieu de l'après-midi. C'est pas grand chose, 7 minutes. Hein. Il est ressorti avec les larmes aux yeux, aujourd'hui il la voit toujours. Ça a changé ma vie, ce truc-là. Et en fait, c'était pas tant la méditation, comme vous dites, c'est l'outil qui a été dirigé, mais il ne s'était jamais arrêté 5 minutes dans sa journée à fermer les yeux et à ne pas être stimulé. Il y a une puissance de la prescription de la chronique qui est non négligeable.
Tous les épisodes de Quoi de Neuf, Docteur d'Adrien Chaboch sont à podcaster et à partager sur vos réseaux sociaux, à podcaster depuis l'appli Radio France.
Ali Rebelli.
Non, mais c'est vrai. Moi, le sujet de la proscription. Je le dirai demain.
Grand bien vous fasse.
C'est vachement compliqué à dire ça quand même. Hein. Non mais en fait c'est comme a dit Bruno, c'est remettre les choses au lendemain. Moi je remets jamais les choses au lendemain. Je les fais pas.
Sur France Inter.
Et ce matin, comment mieux s'organiser pour ne pas remettre au lendemain ? Une émission avec la complicité de Cerveau et Psycho et de son rédacteur en chef Sébastien Boller. Fabien Olicard, on va essayer de moins procrastiner, d'organiser notre temps avec cette chose essentielle. Distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas, ce qui est urgent de ce qui peut attendre. Et vous prenez appui, et ça c'est vraiment très efficace, vous prenez appui sur la fameuse matrice d'Eisenhower, le célèbre 34e président des États-Unis, qui distingue l'urgent important, l'urgent pas important, le pas urgent important et le pas urgent et pas important. Alors on commence avec l'important et urgent.
Alors, déjà, à quoi ça sert cette matrice ? À rendre sa to-do list efficace, parce que sinon on fait que noter les choses, c'est pas hiérarchisé, et puis on sait pas quoi faire, et puis finalement on fait ce qui compte pas du tout et qui est facile, et on procrastine. L'urgent important, c'est comme son nom l'indique, alors il faut être très lucide hein, quand on remplit cette matrice, il faut être honnête avec soi-même. C'est donc mes impôts qui tombent dans 15 jours, c'est urgent à faire, c'est important. Et donc, a priori...
Un rendez-vous médical.
Voilà, je ne peux pas vraiment le déléguer, un rendez-vous médical. Présenter le projet que j'ai moi-même imaginé, c'est urgent et important, parce que dans le mot important, il y a aussi, j'ai une valeur ajoutée à le faire moi-même, hein, je ne peux pas le déléguer. Par exemple, peut-être que j'ai une montagne de vaisselle chez moi à faire, c'est urgent, mais c'est peut-être pas important, c'est-à-dire que je peux le déléguer à quelqu'un, je peux demander à mes enfants de m'aider, ou à mon mari, ou à ma compagne, etc. etc. Donc l'urgent et important, c'est ce qui compte profondément pour nous dans la vie personnelle et professionnel, et où on a une valeur ajoutée.
L'important et pas urgent.
L'important et pas urgent, ça c'est formidable, c'est des choses qu'on va planifier dans son agenda. Le meilleur ami de l'homme, c'est l'agenda. On est fait pour être réactif, c'est pour ça qu'une notification va nous attirer aussi, parce qu'on a cette curiosité de l'immédiateté, ça allume une ampoule dans la tête. Donc il faut planifier, quand on planifie, si on est rigoureux avec son agenda, ça baisse déjà la charge mentale.
Exemple donc d'important et pas urgent, pratiquer un sport, passer
Bien
du temps
sûr,
avec ses proches,
absolument.
Réfléchir à une nouvelle idée. Exemple de pas important et urgent.
Alors, du pas important et urgent, là il y en a plein. Par exemple, je dois remettre un colis à la poste pour un truc que j'avais envie d'envoyer à un copain. Voilà, ça c'est peu urgent, mais c'est important parce que ça me tient à cœur quand même.
Alors, il y a répondre à des appels téléphoniques, faire une course de dernière minute
Bien
pour
sûr.
Une recette que l'on
ça,
veut faire
urgent,
le soir même. Voilà.
Exactement.
Et puis, il y a le pas important et pas urgent.
Alors là,
c'est pour vous, et vous le dites, hein, des tâches qui n'ont aucune raison d'être.
ça, c'est selon Eisenhower aussi. Hein.
Lui, alors, à l'époque d'Eisenhower, on ne scrollait pas sur les réseaux sociaux sans but précis. Ah, et pour vous, c'est une tâche qui n'a aucune raison d'être. Aller sur les réseaux sociaux, c'est utile quand on a un but précis, mais pour vous scroller sans but précis
pendant longtemps. Voilà. Mais, et Eisenhower, lui, il était plus trash que moi. Il disait tout ce qui va dans pas urgent, pas important. On ne le fera jamais. Moi, je crois qu'il y a une notion de plaisir et parfois de créativité, de recherche et développement de sa vie personnelle ou pro. Donc, je me dis, ok, on a le droit de faire ça, mais il faut que ce soit conscientisé, il faut qu'on soit souverain de ce temps-là et de se dire, eh bien moi, là, ce soir, de 18h à 18h30, je vais scroller sur les réseaux et je vais en profiter pleinement. Donc, je n'aurai pas de culpabilité parce que je l'ai décidé en pleine conscience. Voilà. Mais ce n'est pas urgent,
alors,
pas important.
Il y a, par exemple, regarder la télé sans réel intérêt, faire du shopping sans objectif, jouer à des jeux vidéo par automatisme.
Par automatisme, parce que je peux prendre un grand plaisir à jouer à Zelda, et dans ces cas-là, c'est une tâche qui est pas importante, mais qui est peut-être un peu urgente quand même de prendre du temps pour moi, parce que jouer à Zelda me fait profondément plaisir.
Fabien Licard, on a tous des gisements de temps sous la main, et vous appliquez une phrase qui vous facilite énormément la vie.
J'ai prompté mon cerveau.
Un mieux vaut que zéro.
Un vaut mieux que zéro. Ça a changé ma vie depuis que j'ai formalisé cette phrase dans ma tête vers 16-17 ans. Ça a été mon premier déclencheur parce que comme je procrastinais, je me disais toujours bah, j'ai qu'à faire un peu ça. Et après, je me disais bah non, ça sert à rien de le faire un petit peu. Et à un moment donné, je me suis dit mais Fabien, un, c'est mieux que zéro. Et mon cerveau ne sait pas le réfuter, ça. Mmh. Alors, c'est vrai que faire une pompe par jour, par exemple, pour faire du sport, bah, c'est nul. Mais c'est mieux que quand on faisait zéro pompe par jour, finalement. Et après, on va pouvoir augmenter la charge, mais d'abord, on va gagner en régularité. Donc, je fais tout comme ça, un vaut mieux que zéro. C'est systématiquement vrai pour les choses positives, évidemment.
Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement, est-ce que vous avez des idées pour apprendre à procrastiner?
Pour apprendre à procrastiner.
Moins procrastiner. J'ai un lapsus. Et je vais m'allonger sur votre divan, Grégoire Borst. Des astuces pour désapprendre à procrastiner.
Non, mais on en a entendu une et qui me paraît extrêmement importante. C'est-à-dire que l'idée de hiérarchiser les priorités, c'est quand même le béaba. C'est-à-dire qu'il faut effectivement pas simplement faire une to-do list, c'est-à-dire hiérarchiser sa to-do list, parce que sinon, on est très vite content de nous parce qu'on a enlevé un item sur sa to-do list. La deuxième chose, c'est, on l'a bien entendu aussi, c'est cette idée que finalement il faut avoir des rappels, c'est-à-dire que bien organiser son agenda, c'est aussi qu'à intervalles réguliers on puisse avoir un rappel de la deadline qu'il faut qu'on arrive à respecter, parce que sinon on a vite fait de l'oublier. Puis la dernière chose, c'est de prendre le risque d'agir, et c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait agir, c'est déjà finalement faire un premier pas pour moins procrastiner.
Et il est important d'éliminer au maximum les sources de distraction qui offrent une gratification immédiate, par exemple couper les notifications de ces écrans et, pour éviter de notamment scroller sur les réseaux sociaux.
Tout à fait, on met le téléphone un peu loin si on a vraiment une tâche qui va être complexe à faire et qui va nous demander beaucoup d'efforts. C'est-à-dire qu'on va essayer de limiter ce risque, parce que la vision, je dirais, négative de la procrastination, et pourquoi c'est aussi vu négativement, c'est parce qu'on a l'impression qu'on ne fait rien quand on procrastine. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Un procrastinateur, il fait quelque chose. Il fait juste pas la tâche qu'il devrait faire.
Un dernier conseil, Fabien Olicard, au terme de cette émission, pour les procrastinateurs qui nous écoutent.
J'en ai un qui m'a un peu changé la vie, mais juste pour rebondir sur ce que disait Grégoire, c'est vrai que je le ressens, c'est plus facile de passer de 1 à 2 que de 0 à 1. Hein, c'est le point de départ le plus dur. Alors, je me suis donné une autre règle de vie qui marche très bien, et je vous la confie. Je l'appelais la règle des 120 secondes.
Ah oui.
Si j'ai quelque chose qui vient de l'extérieur et qui m'oblige à faire une tâche qui me prend moins de 2 minutes, moins de 120 secondes, eh bien je la réalise tout de suite parce que ça me fait plaisir et que ça me soulage et que c'est ok. Si ça me prend plus de 2 minutes, si cette estimation est réelle, je la planifie dans le temps. Et ça, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien pour le procrastinateur que je suis, parce que je peux quand même faire un peu d'immédiateté.
Moi, par exemple, je me mets en mode robot, comme si je n'avais pas le choix de faire la tâche. Par exemple, j'y vais, même si j'ai pas forcément envie d'y aller, je suis un robot, je vais faire la vaisselle. Voilà, il y a une montagne de vaisselle, je le fais comme si j'étais un robot qui n'avait pas le choix, sinon je m'autodétruis dans les 2 minutes.
Voilà. Ben, c'est ça. Eh ben, on peut gamifier sa vie, vous avez bien raison, Ali.
Merci à toutes et à tous. Merci Grégoire Borst et Sébastien Boller. On peut lire avec profit le dossier « Êtes-vous procrastinateur ?» à la une du nouveau Cerveau et Psycho. Et je recommande, ce livre vous fera gagner du temps de Fabien Olicard, c'est publié chez First. Merci d'être venu ce matin.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.